Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Romains chapitre 2, à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Verset 17. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous continuons donc notre série dans cette lettre de Paul aux Romains. Nous avons dit que Paul résume son message au chapitre 1, versets 16 et 17, ces versets connus, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Mais Paul ne va revenir à expliquer cela qu'au chapitre 3, verset 21. Et en attendant, pour que l'on réalise la beauté de cet évangile, mais aussi la nécessité de cet évangile, l'indispensable nature de l'évangile, Paul va passer du temps à expliquer, à décrire la condition de l'homme. La condition de l'homme par nature. Et le constat, nous avons déjà dit, il est terrible. Que l'homme soit sans la révélation spéciale de Dieu, mais avec la révélation naturelle, avec la révélation que Dieu fait dans la nature, ou que l'homme ait reçu la révélation de Dieu par la loi, nous l'avons vu la dernière fois, le conseil est le même. Il est coupable devant Dieu, il est sous la colère de Dieu, il est pécheur, incapable d'obéir à Dieu par ses propres moyens. Au chapitre 1, la fin du chapitre 1, Paul a parlé des païens qui ont cette connaissance de Dieu sans la loi, connaissance que Dieu leur a donnée. Mais cette connaissance ne sauve pas. Elle peut éventuellement pousser certaines personnes à rechercher Dieu le Créateur. Mais la plupart des personnes vont faire de la création, vont en faire des petits dieux. Ils vont prendre un morceau de bois, ils vont adorer, ou une pierre, ils vont l'adorer. Et il se tourne donc vers l'idolâtrie. Et la conclusion est terrible, nous avons vu. C'est trois fois où le Paul dit, il reprend cette expression, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à leur cœur réprouvé. Dieu les a livrés, manifeste sa colère de cette manière-là. Aujourd'hui, il les a livrés à leur penchant. Au chapitre 2, au début du chapitre 2, Paul, je vous rappelle, a utilisé cette forme de conversation avec un juif religieux qui s'appuie sur sa religion, sur le fait d'avoir reçu la loi. Mais Paul dit, mais tu commets les mêmes péchés que les païens. Tu fais exactement la même chose que les païens. Donc, tu es tout autant coupable aux yeux de Dieu. Toi qui as reçu la loi, tu es tout autant coupable que ceux qui n'ont pas reçu la loi. Et Paul va continuer maintenant de faire une manière plus précise en s'adressant aux juifs religieux qui s'appuient sur des choses extérieures, mais on pourrait généraliser, le principe est le même, à toute personne qui s'accroche, qui s'appuie sur une apparence de religion et sur le fait de posséder certaines choses extérieurement, mais sans la réalité. Et le passage est divisé en deux parties. La première, c'est l'accent sur la loi. Et la deuxième, c'est sur le signe de la circoncision. Ces deux éléments, la possession de la loi et le signe de la circoncision, étaient sans doute les deux marques distinctives du peuple d'Israël. Ils étaient tous les deux donnés par Dieu au peuple d'Israël. Ils indiquaient que ce peuple d'Israël, que le juif était quelqu'un de mis à part, quelqu'un de spécial, qui était détaché des autres nations. Le monde est divisé en deux parties. Il y a le peuple d'Israël, il y a les nations, les païens, tous ceux qui sont autour. Pourtant, Paul vient de dire que le juif est autant coupable que le païen. Est-ce que Paul, comme certains voudraient penser, est-ce que Paul est en train d'ignorer la place spéciale du peuple juif? Non. Déjà, au début du chapitre 3, il va en reparler, en parlant de l'avantage des Juifs, quelle est l'utilité de la circoncision. Il est grand de toute manière, et il va développer ça dans les chapitres 9, 10 et 11, et expliquer pourquoi il y a cette particularité, cette spécificité de la nation juive. Paul ne va pas ignorer, mais ce qu'il veut souligner ici, c'est que toutes les bénédictions que Dieu a données à la nation juive, toutes ces bénédictions en elles-mêmes ne peuvent pas sauver du jugement divin. Ce ne sont pas les bénédictions qui sauvent, aussi nombreuses soient-elles. Nous avons déjà dit qu'au jour du jugement, Dieu, ce qui compte, c'est d'avoir fait la volonté de Dieu. Dieu va juger de façon équitable et vraie. D'un côté, il va juger selon les œuvres. D'un côté, ce sont les œuvres que l'on va faire avec notre justice, notre propre justice qui est souillée. Et de l'autre côté, il y a l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, le substitut, derrière lequel sont cachés tous les croyants. Ceux qui sont en Christ peuvent être rassurés que l'œuvre parfaite du substitut est suffisante et ils n'ont à craindre aucun jugement de la part de Dieu. Mais Paul donc va revenir sur ces deux éléments, la loi et le signe de la circoncision. Tout d'abord, la loi et tous les privilèges qui vont avec. Et Paul, dans les premiers versets, va énumérer 9 privilèges du juif, religion. Tout d'abord, il possède le nom juif. C'est un terme qui décrit le fait qu'il fait partie du peuple d'Israël, cette nation qui est séparée des autres, cette nation que Dieu a choisie pour qu'elle lui appartienne. Être juif, c'était faire partie donc de cette nation, ce n'était pas un étranger, c'était avoir le privilège d'avoir été choisi par Dieu. On a lu ce passage dans Philippiens 3. Paul se glorifiait de cela. Et il disait, mais moi, si quelqu'un peut se glorifier dans la chair, moi, je le puis bien plus. Et il cite toute sa descendance, enfin son ascendance, et ses privilèges. J'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Je suis circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs. Le juif possède ce nom qui le met à part. La deuxième chose, c'est qu'il se repose sur la loi de Moïse. Ils étaient les fiers, et encore aujourd'hui, sont fiers d'avoir été les seuls à qui Dieu a confié la révélation de la loi, la révélation de la connaissance du caractère de Dieu et de sa volonté. Quand Paul écrit ces paroles, il a sans doute en tête la citation de Michée, Michée 3, verset 11, où le prophète, après avoir repris les responsables d'Israël à cause de leurs péchés, Michée rajoute ceci: « Ils osent s'appuyer sur l'Éternel et ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. » Malgré le fait qu'ils aient désobéi, malgré le fait qu'ils se disent, « Non, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. » Ils se glorifient du fait qu'ils se reposent sur les privilèges, uniquement sur les privilèges que Dieu leur a donnés. Troisième chose, nous dit Paul, ils se glorifient de Dieu. Paul, sans doute, encore une fois, cite ou fait référence à Jérémie chapitre 9, lorsque le prophète dit ceci: « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Se glorifier, ce n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Ça dépend dans quoi on se glorifie. Et le juif se glorifie du fait de savoir qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Les païens, eux, sont idolâtres. Eux, ils se tournent vers toutes sortes de choses. Ils fabriquent des dieux de bois, de roc, de rocher ou autre, de pierres précieuses. Le juif, non, il a cette connaissance. Il sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ensuite, quatrièmement, le juif se glorifie de connaître la volonté de Dieu. Ils ont la loi, mais cela a amené l'orgueil. On peut voir l'attitude du juif: ah, les pauvres païens, ils n'ont pas cette révélation. Ils n'ont pas ces grands docteurs, ils n'ont pas ces scribes, ces experts qui peuvent expliquer la révélation, la loi de Dieu. Ah, les pauvres païens. Non, le juif, lui, se dit instruit. Il, cinquièmement, peut faire la différence entre les choses parce que, comme le dit le texte, il est instruit par la loi, peut discerner ce qui est bien de ce qui est mal parce que Dieu lui a donné cette révélation. Le point suivant, c'est que le juif peut faire la différence. Le juif se dit de lui-même qu'il est un guide. Toi être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Il se dit le guide des aveugles, capable d'enseigner. Le point suivant, donc, il peut être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Il regarde les autres de haut. C'est pourtant ce qu'ils étaient appelés à être. Ils étaient appelés à être la lumière des nations. Ésaïe 42, versets 6 à 7. « Et moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. » C'était à quoi ils étaient appelés. Ils étaient appelés à rendre ce témoignage. Mais le juif va plutôt simplement se glorifier dans le fait d'avoir reçu cette parole, cette loi. Il se voit comme un docteur pour les insensés. Le terme insensé, c'est celui qui se rebelle contre la volonté de Dieu, contre les normes que Dieu a données et choisit son propre chemin. Bien sûr, les insensés, ce sont les païens. Ce ne sont pas les juifs. Pour le juif, bien entendu. Et ils adorent Dieu d'une mauvaise manière, comme nous l'avons lu au chapitre 1er. Ils se voient le maître des ignorants. Ignorants ici, surtout dans le sens de prosélytes, c'est-à-dire des personnes qui viennent de l'extérieur, des nations autour, qui voient la religion juive et qu'ils cherchent à devenir juifs. Et le juif qui est un juif de naissance se voit comme étant le maître des ignorants. Et le juif se glorifie dans ces choses. Mais Paul veut souligner que tout cela n'a pas de valeur. Tout cela ne sauve pas. C'est la tragédie. C'est la tragédie de ceux qui se réfugient dans des signes extérieurs, ceux qui s'appuient et qui font confiance uniquement dans des choses extérieures. Les Israélites, le peuple juif qui a reçu cette révélation de Dieu, sont aussi inexcusables que les païens qui sont autour. Et Paul va résumer cela dans les versets 21 à 23. « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Paul les accuse de dérober. Alors ici, il y a toutes sortes d'interprétations qui sont données. Mais la plus plausible, c'est que ici, les Juifs se rendaient coupables de voler des idoles en métaux précieux dans les temples païens pour faire fondre le métal et l'utiliser pour eux-mêmes. Et Paul souligne cela que, pour montrer que leur horreur de l'idolâtrie, en fait, n'est pas sincère. Ils sont prêts à prendre les idoles des païens. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Certains ont traduit la deuxième partie en disant « tu pilles les objets sacrés ». Tu commets des sacrilèges ou tu pilles les objets sacrés. Un commentateur, Frédéric Godet, dit ceci « ton horreur de l'idolâtrie ne va pas jusqu'à t'empêcher d'envisager comme de bonnes prises les objets précieux qui ont servi au culte idolâtre lorsque tu peux te les approprier ». Voilà, et Paul va les condamner pour cela. Verset 23, Paul résume que la glorification du juif dans la loi sans son obéissance à la loi amène le déshonneur sur le nom de Dieu. Au lieu de montrer au quotidien dans sa vie qu'il obéit, il se soumet à Dieu, le juif n'est pas la lumière que Dieu voulait qu'il soit. Mais il déshonore Dieu et sa réputation parmi les nations autour. Paul souligne ce point au verset 24, « Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit, et sans doute faisant référence à Ésaïe 52, verset 5, « Maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé ?» Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Toute la durée du jour, mon nom est outragé. Même si l'outrage vient à cause de l'oppression païenne sur Israël, Paul va créer un genre de... Je n'ai pas trouvé de meilleur mot que twist. On va dire twist, tout le monde comprend. Hein? En attribuant cet outrage au péché d'Israël, qui vit au milieu des nations païennes. Israël avait la loi. Israël a reçu la loi, mais n'a pas obéi. Elle n'a pas été cette nation, cette lumière pour les autres. Elle pense être une lumière, mais elle se glorifie simplement dans le fait d'avoir reçu la loi, d'avoir été choisie, de posséder cette révélation. Mais posséder la loi ne sauve pas. Posséder la révélation de Dieu ne sauve pas. La loi doit nous amener à réaliser que nous sommes pécheurs, comme Paul le dira plus tard, que la loi condamne, et que la loi doit fermer, va fermer, elle est là pour fermer toute bouche devant Dieu, et doit nous conduire vers Christ, et lui seul. Mais le peuple juif, lui, s'est simplement glorifié dans le fait de posséder la loi, et non pas de regarder vers qui cette loi dirige les regards. La deuxième chose que Paul attaque ou Paul condamne, c'est le signe de la circoncision. C'était le deuxième élément marquant qui détermine le peuple d'Israël. Versets 25 à 29, « La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. » Paul veut continuer à attaquer, si on peut parler ainsi, le juif dans sa religion. Et après la possession de la loi, il s'attaque au signe de la circoncision. Mais en fait, comme je dis, la réflexion, le principe est le même pour toute religion. Toute personne religieuse, quelle qu'elle soit, la personne va s'attacher au symbole. Elle va s'attacher à ce qu'elle possède, les signes, les marques extérieures. Mais ces choses-là ne sauvent pas. Ces choses-là ne sauvent pas. Alors, sans entrer dans les détails, la circoncision, c'est le fait de couper la peau donc sur le bout du sexe masculin. Et la circoncision, vous le savez, était donnée par Dieu comme un signe à Abraham, un signe de son alliance, un signe de grâce, comme quoi Dieu avait choisi Abraham et l'a appelé hors de Dur en Chaldée pour faire de lui ce père d'une multitude, d'une descendance nombreuse. Mais c'était aussi un signe sanglant. Le sang coulait. Et Dieu montrait par là qu'il séparait Abraham et sa descendance pour lui-même. Et le peuple d'Israël était appelé, la descendance d'Abraham était appelée à être une bénédiction pour les nations. Mais Paul est en train de dire ici, les œuvres ne sauvent pas, la loi ne sauve pas, mais même la circoncision, signe donné pourtant par Dieu, même ce signe-là ne sauve pas. Paul s'adresse, encore une fois, comme j'ai dit, à ceux qui s'appuient sur des symboles et qui disent, voilà, j'ai ce symbole, je suis en sécurité. Je suis circoncis, dit le juif, je ne suis donc pas sous le jugement de Dieu. Je ne suis pas comme ces incroyants, je ne suis pas comme ces païens. Combien de personnes aujourd'hui portent des signes religieux, portent une croix autour du cou, ou font apposer le signe du poisson à l'arrière de la voiture. Ils se disent, voilà, j'ai le signe, je suis en sécurité. Combien de personnes s'appuient sur le fait simplement de posséder un symbole et penser qu'à cause de cela, ils sont en sécurité. Paul ne nie pas que la circoncision n'a pas de valeur, on reviendra au chapitre 3 là-dessus, mais comme il dit, elle n'a de valeur que si on obéit, si on garde la loi. Elle n'a de valeur que si on comprend vers quoi pointe le signe de la circoncision. Ce signe dirige les regards vers le Dieu de l'Alliance, ce Dieu de miséricorde qui appelle Abraham hors d'Ur de Chaldée et qui l'appelle à venir à lui et qui le guide. Ce signe dirige vers ce Dieu de miséricorde qui fait grâce. Mais au lieu de suivre ce signe, les Juifs ont vidé ce signe de tout son contenu. Ou, pour le dire d'une autre manière, au lieu que ce signe montre que Dieu nous a coupés du monde pour que nous soyons à lui, ce signe montre maintenant que le peuple juif, le juif, celui qui se repose sur la loi, est coupé de Dieu. ta circoncision, verset 25, devient incirconcision. Même l'Ancien Testament enseigne que la circoncision extérieure était un signe, devait être un signe de la circoncision du cœur, de la circoncision du cœur du vrai croyant. La circoncision physique extérieure n'a de valeur que si on sait vers quoi elle pointe. Paul dit que c'est une tragédie que de ne pas connaître la circoncision du cœur. Avoir le signe physique et ne pas être différent de ceux qui n'ont pas le signe, c'est se mettre en fait dans le même camp qu'eux. Avoir le signe et ne pas être différent de ceux qui n'ont pas le signe, en réalité, c'est être dans le même camp que ceux qui n'ont pas le signe, tout simplement. Jérémie 9, versets 25, 26, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. » Donc il n'y a pas que les nations. Les nations sont sans doute incirconcises sur le point de vue physique, mais il dit « et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. » Donc ils sont dans le même camp. Même si dans la chair ils sont circoncis, et en réalité ils sont dans le même camp que les autres. Vous vous rappelez de cette rencontre de Jésus avec les Juifs en Jean chapitre 8, où les Juifs, au verset 39, viennent voir Jésus et disent « Notre Abraham, notre père, c'est Abraham ». Effectivement, ils avaient le signe dans la chair qu'ils appartenaient à la descendance d'Abraham. Pourquoi est-ce que le Seigneur utilise les traite comme étant des incirconcis? Mais Jésus va utiliser des paroles très dures au verset 44, Jean 8, 44. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Oui, vous êtes circoncis dans la chair, d'accord, mais pas dans le cœur. Pas dans le cœur. Votre signe ne sert donc à rien. Votre circoncision devient incirconcision. Si quelqu'un qui est circoncis dans la chair désobéit à la loi, il devient incirconcis. Mais l'homme ou la femme qui croit en Dieu, qui vient à Dieu dans la repentance, dans la foi, qui compte sur sa miséricorde, sur sa grâce, qui regarde à lui comme le sauveur, quand une personne incirconcise fait cela, elle est en fait dans la position d'une personne qui est réellement circoncise. Ce n'est pas le signe qui sauve, c'est celui vers qui le signe pointe. Et le signe de la circoncision pointe vers Dieu, vers le Seigneur Jésus-Christ et vers sa grâce et sa miséricorde. Celui qui ne suit pas le signe reste sous la condamnation de Dieu. Et ce signe deviendra en fait un témoin d'accusation. Ce que ce signe va dire, ben voilà, j'ai indiqué cette direction, mais tu n'as pas suivi. La réalité, c'est la circoncision du cœur, c'est être séparé pour Dieu, pour une vie de foi, une vie de dépendance, une vie de confiance, une vie d'obéissance, une vie d'amour, de suivre Dieu, de suivre le Seigneur Jésus-Christ, comme Abraham a suivi Dieu et lui a fait confiance. Et ce signe pointe dans cette direction-là. Mais on pourrait appliquer ce principe à tous les signes que Dieu donne. Il y a celui de la Sainte Cène. C'est un signe que Dieu a donné, un repas, un symbole. Ce n'est pas la cène qui sauve. Ce n'est pas le pain, ce n'est pas le vin qui sauve. Ce sont des signes, c'est un moyen effectivement de grâce, mais il ne sauve pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il pointe les regards vers Christ. C'est lui qui a brisé son corps, a été brisé. C'est lui qui a versé son sang. Et le repas, la scène, est un signe, est un symbole. Le fait de manger du pain et du vin en partageant la scène, ce n'est pas ça qui sauve. C'est Christ. C'est la même chose pour le baptême. Le baptême est un signe, mais le baptême ne sauve pas. Il pointe vers le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur, que celui qui se fait baptiser confesse qu'il est uni à Christ, qu'il meurt avec Christ, qu'il est ressuscité avec Christ. Mais le baptême ne sauve pas. Le baptême est un signe. C'est un moyen de grâce, oui, mais c'est un signe, et le signe ne sauve pas. Paul a parlé de la circoncision physique, de la tragédie de l'incirconcision spirituelle, et il parle de la vraie nature de la circoncision. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement une idée de l'apôtre Paul, c'est l'enseignement en fait de tout l'Ancien Testament. C'est Dieu qui, tout au long de son peuple, ne cesse de rappeler, ne cesse d'inviter, d'appeler son peuple à revenir à lui, à être circoncis de cœur. Deutéronome 10, verset 16, par exemple, par cette invitation, « Soyez circoncis de cœur ». Il dit, mais si vous ne saisissez pas le signe, si vous ne saisissez pas la signification de ce signe, alors vous n'êtes pas mon peuple. Parce que ce signe vous a été donné pour que vous regardiez à la réalité. Ce qui compte, c'est la circoncision du cœur. C'est d'être transformé, c'est d'être coupé du monde afin d'être de m'appartenir. Jérémie 9. 25, ce verset que nous avons cité tout à l'heure, « Toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. » Paul ici, versets 28 et 29, dit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le juif, le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ce n'est plus une relation horizontale, mais c'est une relation verticale qui s'établit. Dieu donne des signes dans sa grâce. Et il faut voir à travers ces signes, se saisir de la réalité vers laquelle ces signes nous pointent. La circoncision, le fait de couper, c'est un signe qui était donné, qui pointait vers la promesse de Dieu envers Abraham, cette promesse de faire de lui cette grande nation et d'être son Dieu. Et après la circoncision, plus tard, un peu plus tard, Abraham a pu répondre à son fils Isaac. Rappelez-vous, quand il monte sur le mont Morija, que Isaac va lui poser la question, mais nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Et Abraham va pouvoir dire à Isaac, c'est l'Éternel qui va ce pouvoir de l'agneau. L'Éternel pouvoira de l'agneau. Et vous savez que le mont Morija deviendra plus tard le mont Golgotha, là où un autre sacrifice a été offert, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Le fait de couper, de voir le sang couler, pointait vers une autre réalité, une autre coupure bien plus grande, avec une signification éternelle qui serait accomplie à la croix de Golgotha. Et Dieu a gardé le sens de la circoncision d'Abraham. Il a donné son fils pour que son fils soit coupé pour nos péchés et pour que nous, incirconcis, de cœur, par nature, nous venions à la repentance et à la foi, que nos cœurs soient circoncis. Dieu a donné des signes, mais comme Paul le rappelle au peuple juif, aux Israélites, ces signes ne sauvent pas. Et nous ne pouvons et nous ne devons pas nous reposer sur les signes. Sur le fait de posséder la loi, sur le fait de posséder des signes que Dieu donne, mais nous devons voir vers quoi pointent ces signes. Et ces signes que Dieu donne dans sa grâce pointent tous vers le Seigneur Jésus-Christ, vers ce que lui a fait, vers ce que lui a accompli. Et le salut, comme Paul va arriver progressivement à souligner, à développer cette réalité, ce salut, cet évangile, cette bonne nouvelle, elle est par grâce et par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par ce que nous pouvons posséder, par les signes ou par le fait d'avoir la loi. Non, c'est par la grâce. La loi, les signes, tout cela pointe vers le Sauveur qui est venu sauver des pécheurs. Et c'est en lui que nous devons nous reposer. Ne pas nous reposer sur la loi qui ne sauve pas, ou le fait d'avoir un signe ou plusieurs signes. Non. Tout cela ne sauve pas. Le seul qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est son œuvre parfaite, accomplie à la croix, une fois pour toutes. Puissions-nous donc nous reposer sur lui. Puissions-nous connaître et suivre l'exemple d'Abraham, être les véritables enfants d'Abraham, qui ne sont pas les enfants de la chair, mais ces enfants spirituels qui ont la même foi qu'Abraham, qui s'appuient sur les promesses de Dieu, sur la révélation de Dieu faite en Jésus-Christ. Que nous nous appuyions, que Dieu nous donne cette grâce de nous appuyer sur lui, sur le Seigneur Jésus-Christ et sur lui seul. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.